Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Gilles Proulx.
Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à la ricanade. Parle, genre.
Gilles Proulx.
C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
Voici le commentaire de Gilles Proulx.
Gilles, comment ça va?
Très bien, je t'entendais parler de Maxime Bernier, un weirdo, comme on dirait. Mais il sait pas que des joueurs de hockey beaucoup plus jeunes et plus forts que lui, plus en forme que lui, l'attrapent. Ça le fait pas raisonner, ça?
Ben non.
Alors lui, quoi, il est intouchable. Se prend pour Elliot Ness.
Intouchable. Oui. Puis il dit, je suis jeune puis je suis en forme. Mais premièrement, il a 58 ans. On n'est pas si jeune que ça quand on a 58 ans. Et deuxièmement, lui, il vient de la Beauce. Est-ce qu'il voit ce qui est en train de se passer en Beauce? Il y a une flambée de cas en Beauce. Ça va pas du tout. Voyons donc.
Écoutez, à travers toute sa carrière, ce gars-là a toujours été à part de tout le monde. Et on peut pas le comprendre. Constitutionnellement parlant, il y a eu des positions absolument désagréables pour le Québec. Puis à la veille des élections, quand il était chef d'un parti de rien du tout, il y avait une grande compréhension pour le Québec. Il se contredit à tous les 3 minutes, dépendant des vents. Alors, oui. Tant mieux pour lui s'il se sent assez fort. Mais qui regardons les athlètes qui l'attrapent.
On va parler des
on en a parlé tous les deux, des dénonciations. Michel Girard, justement, en parle. Les dénonciations ont commencé à porter fruit puisque, enfin, les employés de SNC-Lavalin dénoncent l'appétit de requin du président Ian Edwards qui avait droit à un magnifique 8 millions pendant que son entreprise a perdu 865 millions l'an passé. Et Edwards et ses 5 complices ont beau dire « Oui, mais on avait donné l'exemple, on avait coupé de 20%, les employés s'étaient fait couper de 10%, eux. » C'est drôle, les employés lui mettent sur le nez, on voit toujours pas la liquidité de ces 20% sur vos sommes astronomiques, vous les 6, là. Alors, dans la prospérité à venir, on la connaît pas. Si on fait tant d'économies que ça avec vos 20%, oui, la liquidité qui devrait servir à relancer la compagnie, qui est toujours à 865 millions dans le rouge. Mais c'est bien beau d'énoncer de la part des employés, bravo, félicitations, on crie haut et fort, enfin! Puis les actionnaires, pareil. Mais il arrive quoi après? On exige quoi de M. Edwards et les autres?
Ben, ils ont fait baisser la valeur de l'action de 26%. Mettons, là, on dit, hey, Gilles Proulx, on va le prendre pour animer un show de radio. Vous arrivez dans une nouvelle station, vous animez l'émission, puis vous avez fait fondre les cotes d'écoute de 26%. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une augmentation de salaire?
J'en doute beaucoup parce que dans la radio, on le sait, on fonctionne selon les bébés merveilles ou les bébés menteurs, c'est-à-dire les BBM.
Alors là, tes BBM sont pas très bons, je vois ici, là.
On va diminuer ton temps d'antenne et on va baisser ton salaire. Ouh, t'es merveilleux, t'es numéro 1 au monde! Si t'écoutes ça, les BBM, mon pauvre Richard, il y a à peu près 892 postes de radio au Canada puis de télé. Ils ont tous des centaines de milliers par-ci, par-là. Ça a l'air que la personne qui se trouve dans la rue à faire d'autre chose que d'écouter la radio ou la télévision. Ça me fait rire, tout ça, le tripotage. Mais, effectivement, c'est un baromètre pour te punir ou te récompenser.
Mais c'est ça, mais comment ça se fait, eux autres, qui ont fait baisser la valeur de leurs actions, donc ils ont mal fait leur job, et là, ils ont une augmentation de salaire. C'est incompréhensible, moi, ça me dégoûte totalement.
Dégoûte, c'est pas le mot, puis on peut dire la même chose de Bombardier, et combien, et nombre de nos fleurons dont on a tant vanté, où on voit les petits présidents s'en aller avec des valises bourrées qui débordent d'argent, puis le peuple ou les employés, merci beaucoup de nous avoir aidés. C'est ça.
Parlant de fleurons, est-ce qu'on peut dire que Mathieu Boccoté, c'est un fleuron québécois?
Oui, c'est un gars qui va finir par percer parce qu'il est en train d'atteindre le firmament de l'internationalisme. Et moi, j'aimerais le saluer haut et fort avec son affirmation et son entêtement qui impose, en tout cas, à Mathieu Bock-Côté, justement une réputation qui va atteindre l'internationalisme à tel point, quand tu vois, par exemple, peu dire, comme Denise Bombardier le rapporte, justement, on voit qu'il fait la page frontispice du prestigieux magazine Figaro, et il est consacré comme l'intellectuel qui dérange et stimule le Québec endormi. Le malheur, c'est que Mathieu Bock n'a pas réussi à réveiller le Québec encore, comme nous tous, mais nous sensibilise sur notre minorisation par l'immigration des allophones qui ne s'intègrent pas. Alors là, tout de suite, le woke, la gauche et les autres tricoteux de pédier, les joueurs de tambour, vont le blâmer d'être un méchant gars de la droite. Mais Mathieu Bock-Côté est un puissant communicateur, encore bloqué par la confrérie atteinte du virus woke. Alors, encore une fois, bravo de justement de publier des ouvrages où on démontre qu'on fait tout pour détruire les identités. La révolution racialiste est un exemple pour ceux qui veulent connaître ce qu'il fait. Tout ce que j'aurais à lui donner, moi, comme conseil, parce que je suis un peu plus vieux que lui, moi, je me rappelle, je l'avais reçu au Journal du Midi parmi les temps, l'un des premiers, ce gars-là, il y a 29 ans, faut le recevoir, monsieur le patron, puis on l'avait reçu, puis il avait été révélateur. J'avais dit au patron, après, vous deviez l'embaucher. Oui, il est péquiste. Alors, tu voyais déjà la mentalité du temps. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à force de continuer avec sa persévérance, il commence à briser des frontières. Il aurait peut-être intérêt à travailler son contenant, c'est-à-dire peut-être sa voix, baisser sa voix. Mais ça, c'est un reproche d'un vieux routier, là, c'est tout. Ça n'a pas plus d'importance que ça.
Mais alors que la France lui ouvre les portes, ici, il était censé faire une conférence une fois à l'UQAM, puis on l'a dit non, il est trop controversé, l'UQAM lui a fermé ses portes. Et là, l'UQAM va dire que sa réputation est en danger parce qu'il y a une fille qui s'est montrée les seins. Non, non, la réputation de l'UQAM est en danger parce qu'il ferme la porte à des gens comme Mathieu Bock-Côté.
Ben oui, l'UQAM, c'est ben moi-même, je suis un ambassadeur de l'UQAM, puis j'ai fait mes études à l'UQAM. J'ai enseigné 10 ans à l'Université de Montréal. Il n'y a pas de comparaison. L'UQAM, c'est une université sociologiquement parlant qu'on appelle l'université de trottoir, au même titre que Concordia, qui a tous ses défauts. Et c'est quelques qualités, mais beaucoup plus de défauts que de qualités. Et l'UQAM, c'est malheureux, mais quand on joue avec les seins d'une fille qui veut faire du nombrilisme et de l'argent avec ça, puis qu'on refuse un gars qui est un de ses docteurs, parce qu'il est diplômé au niveau du doctorat de l'UQAM, n'est-ce pas? Alors, je comprends pas cette attitude mesquine de la part de ces intellectuels nouvelle vague.
Et quand je mettais, moi, j'avais une émission de radio à Québec, radio privée, et j'interviewais Mathieu Bock-Côté alors qu'il était beaucoup moins connu. Je tenais à l'avoir en onde. Et il y a des gens qui m'écrivaient ou qui m'appelaient en disant, c'est qui ce gars-là qui parle avec des longues phrases de même, puis qui s'écoute parler, puis tout ça. Et finalement, avec le temps, les gens ont compris, là, ils ont embarqué dans sa façon de faire. Là. Mathieu, c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la langue française, qui est capable de faire des longues phrases avec des virgules, des points-virgules, des tirets, puis revenir après ça à son idée. Et les gens se sont habitués. Là. Comme quoi, lorsqu'on donne du bon contenu aux gens par des gens intelligents, les gens sont capables d'en prendre.
Tout à fait. Tu as bien raison de rappeler ça, son insistance. Et oh que oui, il est devenu une autorité. Nous n'en avons plus d'élite au Québec. Avant, là, Richard, c'est assez longtemps que tu es dans le métier, il y avait un gros débat, là. Tu voyais le lendemain, Léon Dion, un fédéraliste tanné du fédéralisme actuel, le père de Stéphane Dion, qui est à des années-lumière en avant. On disait le lendemain, « Hey, as-tu entendu Léon Dion? As-tu entendu Claude Rayun hier, qui a dit à propos de ceci ou cela? » Nous avions des élites, nous n'en avons plus. Et si lui peut pointer et devenir justement une élite affirmative, ben bienvenue et souhaitons qu'on va en multiplier d'autres qui vont prendre l'écran de l'actualité parce qu'on n'a personne pour nous éclairer vraiment.
Alors rapidement, Gilbert Rozon qui va se retrouver devant les tribunaux encore.
Ben oui, il n'en a pas fini avec la justice et puis la très tenace Patricia Tulane, une femme que j'admire beaucoup. D'abord, c'est une grande amoureuse des animaux, premièrement. Elle va affronter Gilbert Rozon et cette fois au civil, et elle l'accuse de l'avoir violée en 94. Elle va exposer ses mensonges et il devra faire face à l'opinion publique pour une poursuite d'1,6 million. Rozon, en tout cas, est obligé de constater que la partie n'est pas terminée pour lui, qui s'en était sorti avec un doute raisonnable, survenu il y a 40 ans, cette histoire-là, avec le nombre de filles. Enfin, plusieurs filles, quand même. Alors, face à un groupe de femmes qui avait été déboutées, on se souvient. Alors, nul doute, Rozon est un gars à femmes, c'est pas un gars aux hommes.
Merci beaucoup. Merci, Gilles. On se reparle demain. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Je viens de recevoir un courriel, un texto. Je m'appelle, je dirai pas son nom, je m'appelle blabla, je suis relationniste. L'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay, vient de lancer un livre. J'ai pensé que ce serait une très bonne entrevue pour les francs-tireurs, que les francs-tireurs sont intéressés à le rencontrer. OK, quand tu es relationniste, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est savoir ce qui se passe dans le milieu des médias. Savoir qui tu contactes, savoir qu'est-ce qui se passe. Ça fait 5 mois, les francs-tireurs n'existent plus. Ça n'existe plus, cette émission-là. C'est complètement retiré de l'affiche. Donc, monsieur le relationniste, ça serait le fun de remettre peut-être votre Rolodex un peu à jour. Merci.